Willkommen bei Kultur pur, für einen anderen Blick an Kulturszenen zu Lützburg.
Hallo und willkommen zurück bei Kultur pur, dem Podcast für einen anderen Blick an Kulturszenen zu Lützburg. Was lief zu Lützburg an der Kunstszene? Wie verstopft sich an der Wand mal rein zu Cola? Und was möchte Maskenmilner auf einem Filmset an unserem kleinen Land? All das und vieles mehr geht ihr bei Kultur pur gewohnt. Zweimal im Monat stellen wir einen Akt aus dem kulturellen Milieu vor und gucken für ihr schon an die Kulissen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Für uns 12 Mission haben wir den französischen Lützburgischen Graffiti-Artist Thomas Iser bei unserem Studio. Ob Graffiti, Malerei oder Performance, der selbstgelehrte Graffe will man mit seiner Kunst Menschen inspirieren, ihr Lied zu nutzen und so zu kanalisieren, für ihr Dream zu erreichen. Trotz turbulenter Kantheit bleibt Thomas positiv. Er versucht mit seiner Kunst andere Mut zu machen. Somit schenkt der Mensch an seinen diversen Projekten einen Mann im Vordergrund zu stehen. Werdet mit der japanischen Kintsugi-Technik abzuschütt und im Werdet beim Universal Humanity Project geht, geht er gleich gewohnt. Thomas, tu es peintre, graffeur, photographe, activiste. Pourquoi es-tu devenu artiste?
Alors, assez jeune, j'ai pu me poser pas mal de questions sur... Bon, sur la vie en général, je sais pas, j'avais face à des difficultés un peu familiales, mais j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et j'étais abonné à des fils d'actualité sur Internet, par exemple, de développement personnel, etc. Et il y a certaines phrases qui ont vraiment résonné en moi. Et j'ai vraiment, je pense, voulu devenir la meilleure version de moi-même. C'est aussi pour ça que je fais de l'art. Et c'est une voie aussi... Royal, il n'y a pas de limite dans l'art, il y a des très grands artistes, il y en a beaucoup, mais même eux ne sont pas des limites, ce sont juste des points de repère.
Du coup, tu as vu l'art un peu comme un échappatoire ?
Oui, l'art pour moi c'est un peu, pas que je suis malade, mais c'est quand même une forme de thérapie pour moi-même, et ce que je fais dans l'art me permet de rencontrer plein de gens divers. Et en fait, ça me fait surtout progresser moi-même. Et c'est pour ça que, aussi que je fais ça, c'est aussi pour, pour m'améliorer constamment. Mais c'est très particulier. Ce que je fais, en fait, je le fais avant tout pour moi-même, mais je le fais partager aux autres. Et je pense que c'est hyper important parce que pour moi, la façon d'inspirer les gens, pour moi, ça n'a pas de prix. Et être un exemple, c'est la meilleure façon d'avoir un impact positif, je pense, sur les gens. Sur la société, peut-être, en général. Ouais.
Et du coup, t'as commencé quand ?
Ouais, j'ai commencé par du graffiti. Quand j'avais 13-14 ans, je faisais juste des tags, comme ça, en allant à l'école. Mais ça, c'était déjà une base, en fait. C'était un peu une graine, finalement, que j'ai plantée à ce moment-là. J'aimais beaucoup le tag et le graffiti à l'époque, mais c'était vraiment aussi pour... J'avais envie quand même de casser un peu... c'était un peu plus de la révolte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mes graffitis, c'est bon, les fenêtres que je fais, donc elles peuvent parler à tout le monde, c'est pas juste des lettres. Et là, j'ai pas mal évolué. Ouais, j'ai commencé par le graffiti, et puis j'ai passé mon bac et j'ai fait un BTS pour faire plaisir à ma grand-mère que j'adore. Elle a Alzheimer, c'est dommage, sinon je lui passerai le bonjour, mais ça sert à rien, c'est même pas qui je suis. Mais c'est pas grave, je vais la voir quand même. Puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui arrivaient à vivre plus ou moins de ce qu'ils faisaient. Et puis je me disais que bon, pourquoi pas moi aussi. Hein.
Et on retrouve souvent les mêmes motifs comme les nuages, les fleurs ou encore les oiseaux. Pourquoi ces motifs ? Que représentent ces motifs pour toi ?
Alors la fenêtre, ça c'est une question qu'on me pose souvent, puisque c'est vraiment, c'est comme ma signature finalement, la fenêtre. Et la fenêtre, pareil, donc ça c'est très personnel, mais elle représente pour moi, c'est un symbole de résilience, c'est-à-dire de résistance face à des événements un peu difficiles. Moi, je me cache en rien, je veux dire, vraiment, ça fait partie de mon parcours. Bon, à un moment, j'allais visiter mon frère en psychiatrie, et ma mère, elle était un peu en prison aussi, c'est compliqué, mais moi j'ai toujours gardé espoir, et la fenêtre, ça symbolise cette lumière que j'ai toujours gardée. C'est de la positivité, et puis je mets tout dans cette fenêtre. Pour moi, c'est tout, c'est l'envers un peu du décor de la vie de tous les jours. Voilà, on est tous plongés dans notre quotidien. Et la fenêtre, c'est l'endroit qui englobe tous les rêves et aspirations de tout le monde. Je mets tout ce qui est... c'est le ciel, c'est ça, c'est tout ce qui est... C'est presque spirituel, quoi. C'est tout ce qui est immatériel, mais qui a une vraie valeur, je dirais.
Pour certains, tes œuvres peuvent peut-être sembler un peu chaotiques. Mmh. Enfin, il y a beaucoup de couleurs intenses, il y a différents motifs, il y a des images qui fusionnent l'un dans l'autre et qui sont dotées de symboles. Est-ce que c'est une façon pour toi pour t'exprimer toi-même ou si c'est un reflet, comment tu vois la société ?
J'aime les couleurs, de toute façon, et les contrastes assez forts. Et parfois, je fais des pièces qui sont plus calmes, mais la plupart sont vraiment chargées. Et je peins comme ça un peu au feeling, hein, souvent. Même si là, par contre, là, j'ai une exposition qui est basée sur les 17 objectifs de développement durable en novembre, a priori. Et donc là, je m'adapte à des thèmes, mais de toute façon, qui rentrent en lien avec ce que je fais dans l'art. Mais en général, c'est assez intuitif, la façon de peindre que j'ai.
Et comment tu trouves ton inspiration, du coup ?
Ben, l'inspiration, pour moi, c'est le ciel, encore une fois. Enfin, c'est tout ce qui est... Tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, ça m'inspire. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. C'est des beaux paysages, des voyages, des femmes, je sais pas, plein de choses. Hein.
Tu disais dans une interview que tu souhaites, avec ton art, inspirer les gens à utiliser leur souffrance, dont on a parlé avant aussi, pour alimenter l'accomplissement de leurs rêves. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire pour toi ?
Je ne sais pas si vous connaissez aussi la façon dont je me peins le corps en noir brisé doré dans le monde entier. Donc ça, c'est basé sur le kintsugi, à savoir, c'est un art japonais qui consiste à réparer des poteries à base d'or fondu. Et l'objet, après avoir été cassé et réparé, est plus beau qu'à son état original. Et c'est comme si, quand j'en parle comme ça à des gens, des novices, je leur dis, c'est comme si on va chez Ikea, on achète une assiette, comme il y en a des millions, elle est très standard. Si elle casse, on va la réparer avec de l'or fondu, elle va devenir unique, plus forte. Et si on la recasse et qu'on la répare et qu'on la recasse et qu'on la répare à l'infini, à la fin, elle est incassable et c'est de l'or. Et ça, c'est le message vraiment très, très inspirant du kintsugi. Mais pour revenir à ça, c'est-à-dire moi, je veux encourager les gens à extérioriser leurs problèmes et pas forcément les cacher, puisque c'est aussi une forme de thérapie. Il y a des gens qui payent des psychiatres juste pour raconter leur vie, alors qu'ils pourraient très bien le raconter à n'importe qui, à quelqu'un dans le bus, j'en sais rien. Mais pour moi, ce que je fais, c'est un mix entre le kintsugi aussi et l'alchimie. Je ne sais pas si vous connaissez l'alchimie. Symboliquement, c'est aussi transformer toutes les choses négatives en du positif. Et d'ailleurs, plus on a de choses négatives, plus on peut en faire quelque chose de positif, puisque le symbolisme, c'est transformer le plomb en or. Donc plus on a de plomb, plus on peut faire d'or, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et justement, les gens qui souffrent, ça leur fait des cassures en eux-mêmes. Et ils se rapprochent finalement, ils auront encore plus facile que d'autres à se rapprocher de cette force, quoi. Mm-hmm. Parce que les gens qui sont très confortables dans leur vie, ils se posent pas ces questions-là. Mm-hmm. Ils vivent leur vie et puis c'est tout. Et puis bon, un jour, ils meurent. Et peut-être qu'ils n'ont pas exploré tous les spectres sentimentaux. Et c'est dommage, mais bon.
Et tu penses qu'il y a une fin à la souffrance humaine ?
Oh là là, ça c'est une question très difficile, mais je pense pas, puisque rien que la naissance, je pense que c'est un moment assez douloureux, donc tant qu'il y aura des...
En tout cas pour deux personnes, oui.
Pour les femmes, et je pense pour le nouveau-né aussi, c'est pas un moment facile, donc tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura de la souffrance. Ça fait partie de la vie, je pense vraiment. Et tout le monde souffre, c'est pour ça, moi je relativise toujours le bonheur, c'est pas quelque chose de... C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux, hein. Même parfois au contraire, hein. On a des faux amis, on a une fausse vie. Mmh. Parce que la souffrance, rien que le temps qui passe, c'est une forme de souffrance. On se rapproche tout le temps, chaque jour, on va se rapprocher du moment où on meurt. Et d'ailleurs, quand j'ai ce projet aussi où je fais des photos avec une carte, on en parlera plus tard. Mmh. Et je demande toujours le rêve des gens. Et il y a parfois certaines personnes qui me disent que leur rêve, c'est de mourir en paix. Et ça, je trouve ça très bien. Implicitement, pour vivre en paix, ils disent qu'ils veulent vivre leur vie à fond.
Et tu parlais justement de cette technique japonaise. Donc, tu peins aussi ces lignes dorées sur toi-même et tu te prends en photo. Tu peux juste nous en parler un petit peu plus en détail. Fais ça où ? Dans quelle ville ? Est-ce que c'est une certaine provocation aussi de faire ça en public ?
Non, cette performance en fait, basée sur le kintsugi, donc de me peindre le corps comme ça, je l'ai fait la toute première fois à Paris. Et je l'ai fait aussi, ça c'est un truc très particulier. Honnêtement, j'aime pas forcément m'exhiber, mais c'est quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort quelque part. Et en plus, ça a du sens, puisque j'utilise mon corps comme aussi une toile quelque part, comme un médium, mais pour faire passer un message qui n'est même pas... Le message, il n'est pas celui... Enfin, mon art, on ne peut pas l'appréhender juste par ce qu'on voit. C'est tout un truc. C'est... Même les voyages que je fais, il y a plein de choses qui sont liées. En tout cas, voilà, je me peins le corps à la base en forme de kintsugi. Ça, c'était encore une fois... Ça, c'est encore lié à... J'ai de la chance, que je dis souvent, je suis un privilégié grâce à mon frère maintenant qui a eu... Bon, lui, il a une schizophrénie induite, a priori, par l'usage de stupéfiants. Il a pris plein de drogues. Et bon, ma mère, elle a eu des difficultés. Je pense qu'elle était médecin à la base, donc c'est vraiment dommage. Mais mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Elle avait beaucoup de travail, elle s'occupait de nous. Je sais pas, elle a perdu un peu pied. Mais moi, j'ai vu ça, mais j'ai beaucoup appris grâce à ça. C'est pour ça que j'ai commencé à me peindre comme ça, parce que je me suis aussi senti quelque part comme quelque chose qui avait été brisé, mais je trouve la force de me réparer. C'est pour ça que j'ai fait ça à la base. Et puis maintenant, j'explique aussi que chaque partie brisée de mon corps, finalement, elle représente les êtres humains. C'est comme un puzzle. Elles sont toutes différentes, les parties brisées de mon corps, mais elles représentent donc ces fragments d'humanité. Et j'aime dire que justement, l'égalité entre les êtres, c'est un peu ça. C'est pas... Il y a des pièces qui sont plus grandes, d'autres plus petites, mais s'il y en a une seule qui manque, ça va créer un déséquilibre. C'est ça un peu l'égalité, on peut la voir ici, dans ça.
Et tu l'appuises d'où, cette force de transformer les mauvaises expériences en bonnes expériences? Parce que ce serait facile de se dire, de se victimiser, d'être négatif.
Non, mais après, c'est, la vie, je pense qu'elle est belle et je veux... en profiter un maximum, donc en faisant aussi ce que je fais, ça me permet toujours de voyager plus. Ce qui est bien, c'est que plus je voyage, plus j'arrive à me débrouiller, je me fais connaître aussi, et c'est un cercle vertueux. Tandis que si j'avais été vraiment victime de ces événements, je serais dans un cercle vicieux où je ferais rien. Et là, au contraire, j'aime bien faire beaucoup de choses. Mais pour revenir sur les voyages aussi, c'est vrai que c'est important. Les voyages où je me peins le corps en noir brisé doré, la première fois c'était à Paris, mais je le fais souvent dans des zones un peu qui ont du sens. Par exemple, une des destinations qui a beaucoup de sens pour moi, c'est récemment j'étais au Liban, comme il y a eu cette fameuse explosion. Ça, c'est là, ils doivent reconstruire leur ville et c'est très difficile puisqu'ils sont presque en faillite totale. Dans des endroits comme ça, ce genre de performance a beaucoup de sens, justement. J'étais aussi en Palestine, à Bethléem, juste à la frontière israélo-palestinienne. Je l'ai fait aussi là-bas.
Et comment les gens y réagissent?
Mais les gens réagissent de différentes façons. La plupart, je pense qu'ils ne comprennent pas, forcément. J'ai toutes sortes de réactions. Mais quand je vais dans des pays pauvres, j'ai l'impression que les gens sont plus réactifs comme ça. On dirait qu'ils apprécient plus. Quand je l'avais fait en Thaïlande, une fois là, les gens, ils réagissaient beaucoup. Mais la plupart des gens, c'est dommage, ils sourient, mais ils ne comprennent pas. Alors
ils n'interagissent pas aussi.
Ou alors, non, ils me demandent qu'est-ce que c'est. Et puis là, ensuite, je fais leur photo avec la carte. Et là, ils peuvent comprendre plus tard. Mais
justement, tous ces voyages que tu fais, je pense que la connexion humaine est certainement super importante pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi elle est si liée?
Je pense que, de toute façon, tous les gens que je rencontre, c'est aussi des reflets de moi-même. Et... Donc, ça me fait plaisir de rencontrer plein de gens différents, de différentes cultures, etc. C'est délicat. Hein. Moi, si j'étais juge, il n'y aurait personne en prison. C'est très difficile. Mais on vit dans un monde compliqué aussi, parce qu'on est constamment alpagué par de la publicité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on ouvre les journaux, on a des informations contradictoires presque. Les changements, ils peuvent pas se faire du jour au lendemain, sinon l'économie va s'effondrer. Mais en même temps, on voit la publicité, elle nous pousse toujours à acheter des choses et des choses. En même temps, on nous dit que la planète, elle est foutue. Moi, ce que je fais, vraiment, ce que je veux faire avec l'art, c'est d'inspirer les gens aussi à trouver quelque chose qui a vraiment du sens pour eux et à leur faire voir qu'il y a aussi d'autres choses que toujours acheter. En plus, c'est surtout pour plaire à qui? Souvent, c'est pour plaire à... Je sais pas.
Tu en as déjà un petit peu parlé avant. Il y a quelques années, tu as lancé le projet Universal Humanity, un projet qui te tient, je pense, beaucoup à cœur. Comment est-ce que ce projet est né?
En fait, j'étais une fois, j'ai été peint en noir brisure dorée, comme d'habitude, à la manière d'un kintsugi. Et j'ai pris une photo de mon œil, de mon propre œil. En fait, c'est presque comme des cartes de visite. Aujourd'hui, elles ont la format carte de visite avec mon œil quand j'étais peint en noir brisé doré. Donc, on voit du doré, du noir et mon œil. Et donc, je suis en train de faire un portrait de l'humanité, je dis, en superposant Donc je donne la carte aux gens et je leur fais tenir la carte sur leur propre œil, l'œil droit, comme ça en l'occurrence. Et donc c'est intéressant puisque là, finalement, en tant qu'artiste, on partage notre vision. Et donc là, je le fais vraiment concrètement, je partage ma vision. Les gens que je prends en photo, ensuite, ils représentent, ils rentrent dans le projet et puis ils représentent les parties de l'humanité que je veux rassembler. Et d'ailleurs, je fais parfois aussi des mosaïques avec toutes ces photos. J'en ai des milliers. Là, j'en ai 9400 ou 9500, là. Par exemple, quand Notre-Dame avait brûlé aussi, j'ai fait une mosaïque parce que ça, c'était aussi un symbole fort d'unité. Et puis, il y a des gens du monde entier qui viennent voir Notre-Dame. L'Amazonie aussi, quand elle brûlait, j'ai fait... Là, j'aurais pu en faire beaucoup cet été, mais non, je n'en fais pas à chaque fois qu'il y a des événements comme ça. Mmh. Mais l'Amazonie, j'avais fait aussi quand elle brûlait.
Je pense que tu en as fait la planète Terre. Aussi que tu as même mis en feu.
Ah oui, ouais, ça c'était la planète Terre, hein. J'aimais bien ça. Je ne les brûle pas tous, hein, mais celui-là, je trouve qu'il a beaucoup de sens quand il est brûlé. C'est-à-dire, c'est drôle parce que je m'embête, entre guillemets, même si ça me fait plaisir. Donc, c'est du travail de faire des milliers de photos dans le monde entier. Et puis, donc, je génère cette mosaïque de la planète Terre et puis je l'ai brûlé. Ça, c'est sur mon Instagram. Et je trouve que c'est en la mettant en feu, justement, que l'œuvre, elle existe vraiment. Donc, c'est la création-destruction. Voilà, c'est cassé, mais c'est justement là qu'il y a l'œuvre, elle vit quand elle brûle finalement, elle ne va pas vivre longtemps, mais c'est comme une vie, hein. C'est comme une bougie, elle vit jusqu'à ce qu'elle meure, et l'œuvre, cette œuvre-là, en l'occurrence, vraiment, elle existe quand elle brûle. Et j'aime bien, honnêtement, je suis aussi dessus sur les photos, de toute façon, donc, mais ça me fait plaisir de nous voir brûler quelque part, c'est pas bien, mais j'ai l'impression qu'on ne change pas assez vite nos habitudes, et je me demande parfois si c'est pas déjà trop tard, quoi, donc...
Mais justement, cette autodestruction, est-ce que tu vois ça comme une provocation ?
Prise de conscience. Et c'est un esthétisme aussi de la destruction. C'est comme au Liban aussi, j'avais fait il y avait eu cette explosion. J'ai aussi fait une mosaïque avec cette explosion. Et c'est moche à dire, mais c'est vrai. Je trouve qu'esthétiquement, c'était très joli, cette explosion. Ça peut choquer de dire ça quand on sait qu'il y a eu pas mal de morts, leur économie est détruite. D'un point de vue esthétique, c'était joli. Hein. C'est une explosion, c'est beau.
Et tu te vois comme un activiste ?
Enfin, un activiste, disons que ce que je fais, j'espère que c'est porteur de sens. Et voilà, à chaque fois, les gens que je prends en photo, j'espère planter une graine dans leur esprit. Je leur demande toujours c'est quoi leur rêve ou qu'est-ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes ou pour le monde. Et puis la réponse, elle n'est pas figée dans le temps, ça je leur dis aussi, mais c'est important de leur poser. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. Et parfois, il faut un peu réveiller les gens. Hein. Le quotidien, parfois, il a tendance un peu à endormir les gens, je trouve. Mais c'est difficile, on vit dans un monde très, très compliqué. C'est un luxe aujourd'hui d'être un peu... Et de toute façon, qui sait ? Peut-être que je suis aussi dans l'erreur, j'en sais rien. Moi, je fais juste ce qui me plaît. Je n'ai pas de réponse à tout. Hein. Je fais juste ce qui me semble bon.
Le mosaïque que tu avais fait à Hong Kong, je pense que c'était à l'époque des protestations. Les gens, ils ont réagi comment ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de censure.
Bah, j'avais mis j'avais fait aussi un poster avec des milliers de gens que je prends en photo. J'ai fait une mosaïque de l'homme au char, là, de Tank Man, parce que justement, ils essayent. La Chine essaye de censurer cet événement, comme prétendre qu'il n'a jamais existé. Et je vois que même les big tech companies, là, ils les achètent et même ils vont essayer de faire différencier l'histoire. Finalement, ils vont essayer de la changer, mais il ne faut pas oublier. Et cet homme, il a fait preuve vraiment d'une grande humanité, et d'un courage et d'une force admirable. C'est pour ça qu'il fallait le mettre en scène comme ça. Et en plus, à Hong Kong, c'est bien, puisque même si ce n'est pas complètement la Chine, c'est à moitié la Chine, mais c'est bien. Et le poster, il est resté quand même. Il est resté quelques jours, je crois. Je l'avais mis en plein Hong Kong, comme ça. Et bizarrement, ça, j'ai fait ma petite enquête, comme ça. Je demandais aux gens dans la rue, alors, et ça, vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est ? Et la plupart des gens ne savent pas ce que c'est de toute façon. Donc il n'y a pas, même pas besoin forcément de censurer. Là-bas, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a une personne sur trois qui sait ce que c'est de toute façon.
Ça m'étonne quand même.
Ouais, mais si, c'est très particulier. Moi, je n'ai pas non plus envie de faire trop de politique puisque honnêtement, pour moi, la politique mondiale, elle est très complexe et ce qu'on entend à la télé, c'est pas maintenant mauvais. C'est vrai qu'il y a des conspirations, des manipulations, de toutes parts, il y a des lobbies, il y a des trucs. Mais c'est très compliqué, mais je pense que globalement, vraiment, il y a des gens au top qui essayent de réguler du mieux qu'ils peuvent l'humanité. C'est très compliqué à faire. Et on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs aussi. Parfois, il y a des choses qui sont compliquées à faire, c'est fait quand même.
Donc tu ne voudrais jamais t'engager politiquement ? Pas à travers l'art, je veux dire.
Ouais, ça, c'est très délicat. Bonne question, je sais pas. Je trouve que ça va pas trop avec l'art, je sais pas. Parce que je pense que pour faire de la politique, faut un peu quand même... Ouais, non, c'est pas mon truc. C'est pas, non, mais c'est très compliqué. Mon cerveau, il est tellement habitué à faire ce qu'il veut tout le temps. Et j'ai pas trop de contraintes. Je peins, je fais ça, je fais ci. Les politiciens, ils doivent être concentrés. Ils peuvent pas se permettre de dire des conneries quand ils veulent. C'est délicat. Hein.
Justement, parlant de la force de l'ordre aussi, peux-tu nous parler un peu de cette relation que tu as avec...
Ouais, je m'entends très très bien avec la police, je dois dire. Ils sont, pour honnête, bon, à Luxembourg, ils sont, je trouve, très sympathiques et très professionnels. Et ça me fait plaisir qu'ils, parfois, ils m'arrêtent. Comme ça, ça leur change leur quotidien un peu. C'est vrai, c'est difficile pour eux. Franchement, ça m'énerve. Les gens, j'ai l'impression, ils respectent pas assez la police. Mais ça, c'est vraiment drôle que je dise ça. Mais je sais que c'est complètement, c'est presque idiot. Il y a plein de gens, ils vont dire, ouais, c'est n'importe quoi. Des gens qui font du graffiti, ils vont dire, ouais, il est con. Mais je dis, la police, ils sont pas assez valorisés, on va dire. Pas forcément respectés, mais ils sont pas assez valorisés parce qu'ils font beaucoup d'opérations qu'on ne voit pas, qui sont très difficiles, des disputes, des conjugales. Ils sont là pour servir quand même les gens. Et c'est un métier difficile. Donc je pense que, parfois, qu'est-ce que c'est ? S'ils m'arrêtent parce que je fais un dessin avec des nuages, qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est pas important.
Mais est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes maintenant, genre à l'étranger, avec tes actions, on va dire ?
Non, pas vraiment. J'ai toujours de la chance. Mais de toute façon, c'est pas, il n'y a jamais, jamais de problème. Au pire, qu'est-ce que c'est ? Je passe où j'ai une petite amende, ou alors je vais un jour ou deux en prison. Comme ça, je médite, j'en sais rien, ça m'est égal.
Tu n'avais pas fait une petite œuvre aussi où tu avais signé l'amende de la police ? Je me souviens plus trop.
J'en ai déjà eu plusieurs. Les convocations, parfois, que je reçois. Ouais, c'est une sorte de collaboration, c'est assez drôle. Mais c'est vraiment pas pour moquer. Mais ça me fait plaisir parce que... Là aussi, d'un agent de police, j'en fais entre guillemets un artiste. On est, parce que je pense vraiment qu'on est tous des artistes de nos vies. Et voilà, on peut faire un chef-d'œuvre. Tout le monde est un artiste, donc ça me fait plaisir de rendre un policier comme ça artiste, une sorte de collaboration, mais même s'il n'a rien fait. Mais là encore, ce n'est pas pour moquer, mais justement, ces œuvres particulières, elles ont du sens par rapport à ce que je fais, puisque c'est aussi quelque chose de négatif. À la base, j'en fais quelque chose de positif. Donc ça, c'est... Je fais ça aussi pour mes tickets de parking. De toute façon, je les garde tous, je fais des petites fenêtres dessus, comme ça j'ai le parking gratuit au moins.
Et cette dernière année, donc, je suppose que tu n'as pas vraiment pu voyager. Est-ce que ça, à cause de Covid, tu trouves qu'il y avait une influence sur ta façon de créer ?
Bah, j'ai peint plus de toiles un peu cette année, mais j'ai quand même su un peu voyager quand même. J'étais en République Dominicaine, j'étais au Liban, j'ai voyagé pas mal, mais normalement je passe plus de temps aux États-Unis, puisque à Luxembourg je suis peut-être un peu connu déjà, mais il faut que j'arrive à faire la même chose aux États-Unis au moins. J'ai des contacts là-bas, ça fait des années que j'y vais régulièrement, je reste un mois ou deux là-bas. Parce que Luxembourg, c'est un beau pays, on est privilégié, on est bien, mais c'est aussi maintenant pour les médias, ils n'ont pas le même impact que là-bas, par exemple.
C'est clair,
normal. Et c'est important, les médias, pour réussir vraiment dans l'art.
Et actuellement, tu travailles sur quoi ?
Comme je dis, là, je prépare une exposition sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc, sur chaque thème, je fais des œuvres en rapport. J'ai fait des néons, par exemple, qui sont... alimenté avec du photovoltaïque ou des choses comme ça. J'ai fait quelque chose aussi de très sympathique avec des mégots de cigarettes. Et donc, vraiment du upcycling. Donc, c'est des déchets, on en fait de l'art, des choses comme ça. Ça, je fais ça avec Chromapoulos, qui est le spécialiste là-dedans, dans tout ce qui est économie circulaire, etc. Et ouais, ça va être très sympa. Je suis en plein dedans, j'ai beaucoup de travail là.
Il y aura une exposition aussi ?
Ouais, il y aura une expo. A priori en novembre, mais il faut que j'arrive à tenir les délais, c'est difficile, oui. J'ai encore beaucoup de...
Ok, bah on fera vite, ce sera les deux dernières questions pour toi. Si tu pouvais disposer d'un pouvoir magique, ce serait lequel et pourquoi ?
Oh là là, ça j'aurais dû préparer quand même.
Bah, tu peux prendre 2-3 minutes.
Voyager dans le temps.
Voyager dans le temps.
Time travel, tu vois, justement, comme ça j'aurais pu voyager dans le temps, dans le passé, j'aurais pu...
Mais juste dans le passé, pas dans le futur ?
Dans le passé, dans le futur, comme tout est lié, je changerais le cours du futur en allant dans le passé.
Mais ça, c'est encore un autre pouvoir magique.
Dans le temps, c'est tout. C'est passé, futur, présent. Tout.
Et si tu pouvais faire un documentaire sur quoi que ce soit, ce serait sur quel sujet ?
Ah, j'aimerais tellement savoir, alors ça c'est quelque chose, on n'en parle pas assez, mais je suis très 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 hyper intéressé de savoir Qu'est-ce que les grandes compagnies, les tech companies, ils savent sur nous? Ils doivent savoir des choses incroyables. Google, Facebook, ça, ils savent tellement de choses sur nous et j'aimerais bien faire un documentaire sur ça un peu. Parce que ça m'intéresse justement encore une fois l'humain, la façon dont il interagit, la façon dont il réfléchit. Et c'est très particulier parce qu'on vit une époque où justement avec nos smartphones, on utilise peut-être de moins en moins notre cerveau et puis notre attention, elle diminue. Je me demande vraiment où est-ce qu'on va... Je sais pas, parfois je me dis c'est peut-être ce qui va nous sauver, et puis aussi c'est peut-être ce qui va nous complètement annihiler notre humanité, c'est-à-dire qu'il va complètement, on va devenir comme des robots peut-être.
Mais est-ce que tu trouves ça un peu ironique que tu utilises autant Instagram, t'as beaucoup de followers, tu poses beaucoup sur Facebook des vidéos, pourtant c'est un peu ce que...
Non, mais moi je veux créer un univers, c'est important pour moi, parce que justement comme je fais des milliers de photos avec cette carte, j'ai un Instagram particulier pour Universal Humanity, un pour moi-même, mais je trouve pas que ça entre en contradiction, je poste pas des bêtises... J'essaye de pas trop faire des pubs ou sollicitations pour promouvoir des produits idiots. Enfin, on n'a pas besoin, je m'en fous. Mais c'est particulier, hein, parce que là maintenant, par exemple, il y a une photo, mais c'est une sorte de pub, c'est pour les maillots de bain Villebrequin. Et peut-être que je vais faire une collaboration avec eux. Et comme c'est toujours bien, ça peut aider. Hein,
ouais.
Mais ça, c'est très délicat, hein, c'est clair. Il faut pas être invendu, c'est difficile. Hein, mais je crois que ça ira.
Cool. Bah Thomas, je te remercie beaucoup pour ce petit aperçu dans ta vie et dans ton travail. Bon courage alors pour l'expo en novembre.
Merci, merci.
Das war Kultur pur, der Podcast mit einem anderen Blick auf Kulturszene zu Luxemburg.